VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les violences dans le Sahel. Les djihadistes et les autres groupes armés actifs dans la sous-région ont trouvé dans les mines d'or du Sahel une nouvelle source de revenus, profitant de la défaillance des États concernés. C'est la mise en garde de l'ONG International Crisis Group, entité spécialisée dans la prévention et la résolution des conflits, dans un rapport publié ce mercredi. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des groupes armés s'emparent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent, soumis International Crisis Group dans ce document. L'ONG ajoute que la convoitise de ces groupes armés est attisée par le boom du secteur aurifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un filon saharien. Les trois pays concernés sont directement frappés par la propagation des activités djihadistes à partir du nord du Mali depuis 2012. Ces agissements sont aggravés par les conflits intercommunautaires et les violences ont fait des milliers de morts, combattants et civils. Toujours concernant le combat anti-djihadiste dans le Sahel, au Forum de Paris sur la paix, le président français Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises dans les prochaines semaines pour améliorer la lutte contre les djihadistes dans la sous-région. Il l'a dit en recevant ce mardi à l'Élysée ses homologues du Tchad, Idriss Déby Itno, du Niger, Mahamadou Issoufou et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Voici un extrait du discours d'ouverture du président français Emmanuel Macron.
L'Afrique est aujourd'hui en train de vivre avec nous collectivement un défi. Elle a longtemps été un objet du multilatéralisme. Elle est en train de devenir un des sujets du multilatéralisme, c'est-à-dire qu'elle y prend sa part active. Et je veux saluer l'engagement des États africains ici présents et plus largement des pays d'Afrique qui prennent leur destin en main, construisent des solutions concrètes. La Tunisie a su le faire avec beaucoup de courage quand il s'est agi de rebâtir la démocratie il y a plusieurs années. Je salue ici la présence du Premier ministre. Mais tout le continent africain, et je pense en particulier au Sahel, a aujourd'hui ce défi et la force des pays africains de relever le défi politique, aussi militaire et sécuritaire, est essentielle. Et nous avons dans cette nouvelle ordre international à bâtir aussi des nouvelles solutions dans le cadre des Nations Unies permettant d'accompagner mieux qu'on le fait aujourd'hui cette capacité sécuritaire de l'Afrique, mais aussi à l'aider à bâtir sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de l'économie, ce qui sont les quatre solutions qui permettent de bâtir la paix durable et d'éviter que ne réémergent les facteurs de déstabilisation.
C'était le président français Emmanuel Macron au Forum de Paris sur la paix. À Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le parti d'obédience islamiste Ennahda, arrivé en tête des législatives du 6 octobre, doit former un gouvernement d'ici 2 mois. Mais il n'a que 3 jours seulement pour faire un choix, prendre la tête de l'exécutif ou la laisser à une personnalité indépendante. Le point avec Idriss Fall.
Un chef du gouvernement doit être chargé d'ici vendredi de constituer une équipe dans un délai 1 mois renouvelable une seule fois. Après un week-end de discussion, Ennahda n'a avancé aucun nom. Le parti s'est contenté de proposer son chef historique, Rached Ghannouchi, comme futur président du Parlement s'il est élu ce mercredi. Le parti arrivé en seconde position aux législatives Kalb Tounes a appelé hier à mettre un indépendant à la tête du gouvernement. Le Parlement est morcelé entre des dizaines de formations dont nombre ont exclu de travailler les unes avec les autres. Certains partis sont à l'affût, espérant qu'un échec d'Ennahda va laisser au président Kais Saied le soin de désigner un premier ministre. Ce dernier aurait à nouveau 2 mois pour former une équipe soutenu par la majorité des députés.
En Algérie voisine, la rue ne lâche pas. Quelques milliers d'étudiants ont défilé mardi à Alger pour la 38e semaine consécutive contre le pouvoir, réclamant notamment une justice indépendante et la libération des personnes arrêtées dans le cadre du mouvement de contestation contre le régime en place. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Les étudiants, accompagnés de citoyens, ont défilé sous la pluie et sans incident jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement traditionnel du Hirak, le mouvement de contestation qui secoue l'Algérie depuis le 22 février. La police était fortement déployée à Alger. passant dans le centre d'Alger, près du tribunal de Sidi Mohamed, qui a condamné 28 manifestants à 6 mois de prison ferme. Les étudiants ont réclamé une justice indépendante et fustigé une justice du téléphone, accusant les juges de prononcer des peines sur instruction téléphonique du pouvoir. Ces 28 personnes ont été condamnées pour atteinte à l'intégrité du territoire national pour avoir porté des drapeaux berbères. En juin, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, avait interdit tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations. 5 candidats, tous d'anciens soutiens de M. Bouteflika, dont 2 anciens premiers ministres, ont été officiellement retenus pour participer à l'élection présidentielle prévue le 12 décembre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, les autorités ont émis mardi un nouveau mandat d'arrêt. D'arrestation à l'encontre d'Omar al-Béchir, l'ex-président déjà en prison. L'ancien chef de l'État est maintenant ciblé pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a amené au pouvoir, ont indiqué des sources politiques et juridiques. Des mandats d'arrêt ont été émis contre tous les responsables militaires et civils qui ont comploté et mis en œuvre le coup d'État de 1989, a annoncé dans un communiqué le mouvement des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation qui a mené à la chute de l'ex-président Béchir en avril dernier. La lutte contre la corruption en Afrique, les États-Unis continueront d'utiliser l'arme des sanctions contre la corruption et l'impunité en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré mardi Peter Pham, l'émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Une nouvelle marque du soutien de Washington au président congolais Félix Tshisekedi, souligne-t-on. Les précisions d'Eddie Isango.
Après une visite à Kinshasa, Peter Pham, l'envoyé spécial des États-Unis, a écrit hier dans un communiqué « Nous continuerons à utiliser tous les instruments, y compris les sanctions, pour assurer que ceux qui sont corrompus, ceux qui violent les droits humains, ceux qui mettent en danger la paix et la sécurité dans la région ou ceux qui menacent les processus démocratiques soient tenus pour responsables de leurs actes. » Il encourage le président Félix Tshisekedi à redoubler d'efforts pour réformer et renforcer les institutions démocratiques et pour lutter contre la corruption. En septembre, M. Tshisekedi avait affirmé qu'il voulait changer les mentalités contre la corruption sans faire des chasses aux sorcières. Le président congolais a été reçu le 4 avril par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. Washington est aussi le premier contributeur financier à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué depuis août 2018 plus de 2000 personnes dans l'est de la RDC.
Actualité aux États-Unis maintenant, affaires ukrainiennes. Les premières auditions publiques commencent ce mercredi dans le cadre de l'enquête ouverte par l'opposition démocrate pour une éventuelle procédure de destitution contre le président républicain Donald Trump. Deux diplomates américains ayant fait part de leur inquiétude sur la position adoptée par le président Trump dans ses échanges avec l'Ukraine vont être entendus par le Congrès aujourd'hui. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Ukraine, William Taylor, doit de nouveau témoigner aujourd'hui, cette fois lors d'une audition télévisée devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants, l'une des 3 commissions menant l'enquête. Un autre diplomate ayant travaillé en Ukraine, George Kent, doit lui aussi être entendu. Les auditions publiques se poursuivront en fin de semaine et la semaine prochaine, on fait savoir les parlementaires. Marie Yovanovitch, qui a été subitement limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, doit, elle, être entendue vendredi. Elle a déjà été interrogée à huis clos par les parlementaires dans le cadre de la procédure. William Taylor a déclaré le mois dernier devant les parlementaires que Donald Trump a conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur la compagnie énergétique ukrainienne Burisma dans le but de nuire à Joe Biden, un possible rival démocrate à la présidentielle de novembre 2020. Cette compagnie avait recruté Hunter Biden, le fils de l'ancien vice-président américain. Ce témoignage alimente la thèse des démocrates selon laquelle Donald Trump avait demandé une contrepartie à Kiev pour les 391 millions de dollars d'aide destinée à faire face aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Une aide provisoirement suspendue par le président républicain après qu'elle a été approuvée par le Congrès.
Pour terminer, le président Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Au programme de leur consultation, notamment le conflit en Syrie, le sort des prisonniers djihadistes ou encore l'OTAN. Une conférence de presse commune des deux leaders est prévue plus tard dans la journée. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.